Un sol majeur.
Un sol majeur.
Nous sommes de retour pour la seconde partie dans Sol Majeur. Vous êtes sur RFI, la radio mondiale. Avec nous, la Lyonne Calix Béela qui vient de publier le roman de Pauline.
J'allais sur mes 8 ans lorsque Fabien, de 2 ans mon aîné, me brisa la mâchoire d'un coup de poing. Je pleurais beaucoup, saignais autant. Mais maman, qui savait que la vie avait plus d'un mauvais tour dans son sac, me dit « C'est pas grave Pauline, sois forte ». Une fois la douleur passée, ma gencive cicatrisée, elle ne se soucia pas de savoir si la difficulté que j'éprouvais à mastiquer les aliments allait avoir des conséquences sur ma santé. Ce n'était pas bien grave du moment que je pouvais me nourrir convenablement.
Calice, à travers ce roman, on a le sentiment que vous restituez l'itinéraire de Pauline avec une certaine liberté de ton, où apparaissent d'ailleurs les drames et les attentes de Pauline et à travers elle d'autres adolescentes, non ?
Oui, non, mais c'est là j'ai voulu offrir aux enfants de nos banlieues un livre à lire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, l'adolescence noire en France n'existe pas. C'est-à-dire que, ou alors on nous dit, c'est tous des délinquants. On propose des livres de des repentis qui ont tué je ne sais point qui et qui sortent de prison, ou des braqueurs, etc. etc. Une adolescence est une adolescence, avec ce que cela comprend comme difficulté. Et dans ce qui est proposé, c'est l'adolescence dans les quartiers chics, comme le Grand Mône. C'est beau, mais c'est les quartiers chics de France. Les enfants ne s'y reconnaissent pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que les enfants puissent rêver. Vous savez, beaucoup de mes livres naissent de ce genre de nécessité aussi. C'est-à-dire la nécessité très égoïste de faire
lire. D'informer, d'éduquer.
Oui, mes propres enfants. Je les considère comme mes enfants. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de livre pour mes enfants. Ben, j'écris un livre pour mes enfants. Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça.
Merci, Calé. Nous allons retourner à notre platine pour écouter l'un de vos choix musicaux, une belle mélodie de la chanson française avec Le Temps, Léo Ferré.
J'adore.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie Schwarzkopf. Dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues.
Léo Ferré, poète, musicien et chanteur, né le 24 août 1916 à Monaco et mort un 14 juillet, il fallait le faire, 1993 à la Toscane. 46 ans d'activité artistique avec à la clé plus de 40 albums originaux. Donc, vous êtes parti chercher vraiment très loin cette chanson.
Oui, parce que effectivement, moi j'adore Léo Ferré parce que c'est un chanteur, c'est un poète avant tout. Hein. Je veux dire que il sait manier la langue, il sait la rendre belle, élastique, et je suis très sensible à ses mots. Je veux dire que pour moi c'est un écrivain avant tout, c'est pas seulement un chanteur. Quand vous écoutez Avec le temps, je veux dire que même en tant qu'écrivain, vous rêvez d'écrire ces mots-là, ces mots qui paraissent simples, mais qui, dont l'association est très difficile à trouver. Je veux dire que j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon que je n'ai jamais rencontré. J'adore toute sa musique en fait. J'ai choisi Avec le temps parce qu'il fallait bien choisir quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait partie de mes poètes préférés.
Ce sont les chansons que vous écoutez chez vous?
Oui, et même dans ma voiture.
Quand vous étiez enfant, quels étaient vos modèles ou vos idoles?
Quand j'étais enfant, il y avait effectivement d'abord le modèle familial, c'est-à-dire la grand-mère et mes tantes qui étaient des femmes très fortes, très puissantes, très autonomes, qui étaient à l'époque déjà des féministes. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille de femmes féministes, des femmes...
Allez, les femmes!
Ah oui, non, mais c'est vrai. Elles avaient leur maison, c'est-à-dire elles ne fonctionnaient pas sur le modèle africain de l'époque. Elles fonctionnaient sur tout à fait un autre modèle, c'est-à-dire déjà à l'époque, ce sont les femmes qui avaient leur maison, qui se refusaient d'habiter chez des hommes, même quand elles étaient mariées, elles exigeaient que ces hommes viennent habiter chez elles, dans leur maison à elles, et éduquer elles, leurs enfants.
Alors, je comprends mieux votre caractère qu'Alcibé.
J'aime ça. Et par la suite, c'est vrai qu'en modèle féminin, j'ai pas voir Angela Davis quand j'étais petite. Yeah. Je vais avoir Angela Davis comme modèle féminin, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais vouloir ressembler à cette femme-là.
La grande militante,
des
Black Panthers.
Black Panthers. Effectivement, je me coiffais comme elle. J'avais, quand j'étais jeune, un afro énorme comme ça sur la tête.
Professeur de philosophie, d'ailleurs, qui est venu donner souvent des cours ici à la Sorbonne.
Ben, je ne l'ai jamais rencontrée. J'avais vraiment une grande admiration pour elle. Je trouvais que c'était une femme courageuse, belle, physiquement très belle et extraordinairement intelligente. Et pour moi, c'était ça le modèle féminin absolu. Voilà.
Et dans l'histoire du continent africain?
Dans l'histoire du continent africain, je me suis beaucoup plus définie par rapport à Béatrice de Congo. Cette espèce, cette femme reine dont on ne parle jamais d'ailleurs, qui va être la première à proposer l'idée du panafricanisme. On oublie souvent de la signaler parce que c'est elle qui demande au monde, enfin, qui demande au monde africain de créer les États-Unis d'Afrique, que cette idée qui va être reprise par, plus tard par les chefs des pays africains, enfin, les chefs de, des indépendances, voilà. Des indépendances d'abord avec les Kourouma et autres. Hein,
Kourouma, Sékou Touré, Modibo Keïta, Félix Sénéré, tout ce monde, avec Abel Nasr, l'ancien président égyptien.
Absolument.
Tout ce monde noir.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée vient d'une femme qui est au 19e siècle, qui était une femme noire. Et par la suite, ça va être repris par les pères des indépendances africaines. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est porté par Kadhafi, mais ce n'est pas seulement une idée de Kadhafi, contrairement à ce que les gens pensent. C'est l'idée d'une femme. Et moi, je travaille sur ce projet-là. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Et je travaille sur ce projet-là parce que je pense fortement que l'Afrique ne pourrait s'en sortir qu'en créant ces États-Unis d'Afrique. Effectivement.
no be gentleman at all. Gentleman at all, oh. I no be gentleman at all at all.
I no be gentleman at all, oh.
I be African man, original.
I no be gentleman at all, oh.
I be African man, original.
I no be gentleman at all, oh.
Them call you, make you can chop. You chop small. You say you belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go suffer. You go quench. Me, I no be gentleman like that.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I be gentleman at all.
I be African man, original.
I be gentleman at all.
You take go your way, the judge away. Somebody come bring original trouble. You no talk, you know what? You say you be gentleman. You go suffer, you go tired. You go quench. Me, I no be gentleman like that.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
Africa hot. I like I'm so.
Fela Anikula Pokuti, ce homme politique nigérien, musicien d'abord. Il est né en 1938 et mort en 1997. Il est l'inventeur de ce qu'on écoute là, l'afrobeat, qui est un mélange de jazz, de funk et de musique traditionnelle africaine. Calix, c'est quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a même eu la chance de rencontrer dans votre vie.
Oui, c'est quelqu'un qui m'a marqué parce qu'effectivement, nous avions des relations très
amicales.
J'étais très capricieuse, il faut dire la vérité, j'étais hyper capricieuse et j'ai beaucoup pleuré quand Fela est mort parce que, écoutez, je le faisais marcher hein, comme une bonne jeune fille.
C'est-à-dire hein?
Oh, par exemple, il y avait des moments où Fela n'arrivait pas à manger quand j'étais pas là, donc du coup, j'ai mangé pas.
Vous l'avez connu réellement?
Ah bon, oui, donc même quand Femi a chanté pour la première fois, il m'a fait venir au Nigeria pour que j'écoute Femi.
Femi, c'est son fils.
C'est son fils, absolument. Donc il avait une espèce, il trouvait que je ressemblais à sa mère. C'était pas mon amant, attention, hein. Il trouvait que je ressemblais à sa mère. Il m'adorait, il y avait une espèce d'adoration comme ça. Et j'ai eu le privilège, effectivement, d'écouter Fela en concert privé, c'est-à-dire il ne chantait que pour moi. Il jouait du saxophone, rien que pour moi.
Est-ce que les textes de Fela vous touchent aussi?
Ah, énormément. C'est le rebelle, je pense que si, effectivement, il y a eu toute cette relation aussi. Et aussi ma construction, il faut dire que j'étais très, 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 très. J'ai commencé à peine d'écrire hein, quand j'ai connu Fela pour la première fois. Et j'avais même pas encore publié. Donc je pense que cette relation aussi va me pousser à renforcer la rébellion en moi, parce que Fela était un rebelle absolu.
Et c'était c'est pour être tellement rebelle qu'il avait créé à l'intérieur de l'État nigérien la République de Calcutta, une république indépendante avec sa maman, sa famille, avec ses, il avait je crois 21 femmes.
Absolument, mais bon, moi je n'entrais pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire que moi il me connaît après la mort de sa maman, et il va penser que j'étais l'incarnation de sa mère. C'est très curieux comme relation, ça, je vous ai dit, c'était bizarre comme truc. La première fois que Fela me rencontre, il est à l'aéroport, moi je partais accompagner un ami qui voyageait, il était de loin, il me voit, il court vers moi, et j'ai vu ma mère. Et bon, comme je comprends plus très bien le pidgin, c'est une des langues que je parle de l'Afrique, le pidgin, hein, qui se mélange d'anglais,
d'allemand et le français.
Voilà, donc je parle très très bien le pidgin, et effectivement, il est venu vers moi, il était complètement halluciné de voir cette jeune fille, je ne sais pas en quoi je ressemble à la mort de Fela, jusque je n'ai pas compris. Et il va avoir à mon égard une espèce d'adoration, il va demander à ces femmes d'avoir pour moi une adoration absolue. C'est une relation très étrange que je ne pourrais même pas raconter dans un livre, parce que les femmes étaient obligées de venir me faire les mains, de me coiffer, de me nettoyer les pieds. Franchement, c'était ça, mes relations avec Fela. Et donc, aucune femme n'avait le droit d'approcher quand j'étais là, parce que j'étais censé être sa mère. C'était incroyable comme truc.
Donc, c'était la reine de la République de sa République
non,
de
là-bas. Non, je le faisais dans ce cas-là à Paris. Paris. Non. Mais quand j'allais là-bas, effectivement, quand je suis allé écouter Fémi pour la première fois, bien sûr, il y a eu aussi tout cet aspect-là. Et je pense quelque part que ma légèreté m'a fait pleurer en 97 quand Fela est mort. Parce qu'effectivement, j'aurais dû plus l'écouter. J'aurais dû, je vais dire, avoir eu la chance d'avoir rencontré et d'avoir comme ça un homme aussi
populaire, mais engagé.
Non.
Très engagé.
Oui, je peux dire intellectuellement puissant et être passé à côté parce que je suis toute gamine et capricieuse. J'ai fait la même chose avec Barry White, vous voyez. Toute ma vie, ça a été ça aussi, hein, d'une certaine façon. Je veux dire que je suis tellement capricieuse que Bon, ils se mettent à mon service, ils me servent, voilà. Et puis j'oublie et je continue à écrire, j'oublie de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire recueillir des témoignages en tant qu'écrivain important de leur vie, de leurs pensées, et en faire quelque chose que j'aurais dû donner au monde. J'ai eu ces opportunités-là, je ne l'ai pas fait, et ça, c'est vraiment dommage.
Mais ce qui ne vous a pas empêché, Calixte, de continuer votre combat, vous êtes contre l'injustice, et c'est pour cette raison qu'on va vous poser cette seconde question.
Liberté, égalité, fraternité sont les mots fondateurs de la Déclaration de droits de l'homme. Lesquels de ces trois mots vous fait le plus défaut dans votre vie de tous les jours?
La fraternité.
Pourquoi?
Mais parce que j'aurais préféré qu'en France tous les gens soient plus frères que ça. Je dirais même que tous me font défaut. L'égalité me fait défaut. Également, je veux dire qu'effectivement, vous savez, vous ne pouvez pas créer la fraternité sans égalité. C'est pour ça que je suis parti d'abord sur la fraternité. Je veux dire que vous ne pouvez pas dire aux gens qui sont frères alors qu'ils ne sont pas traités à égalité. Et la République française a intérêt à mettre plus l'accent sur l'égalité sans être égalitariste. Je ne parle pas d'égalitarisme. J'ai dit égalité de forme, mais de fond, parce que l'égalité de forme, c'est cette déclamation qu'on vient d'entendre. Nous réclamons l'égalité de fait, palpable. Qu'on ne soit pas handicapé parce qu'on est noir ou arabe, qu'on ne soit pas handicapé parce qu'on est femme, qu'on ne soit pas handicapé parce que effectivement on n'a pas le nom qui a la résonance qu'il faut, parce qu'on n'a pas l'accent à la résonance qu'il faudrait, etc. Ça, c'est vraiment dommageable pour ce pays qui est la France, qui était toujours un pays qui était en avance sur tous les autres pays du monde, sur tout ce qui touche aux droits de l'homme. Aujourd'hui, la France a beaucoup reculé par rapport notamment aux États-Unis, qui peuvent nous brandir en étendard un Obama, tandis qu'en France, on essaie de nous brandir des objets sexués qu'on nous appelle des ministresses. Voilà, c'est
la différence. Est-ce que ce regard que vous portez sur la France, sur le quotidien de la France, justifie vos combats au quotidien, et tels que la création de l'association Collectif Égalité?
Ah ben absolument, je vais dire qu'effectivement ça traduit de l'amour aussi que j'ai pour la France, c'est-à-dire que j'ai horreur que mon pays soit regardé comme un pays attardé mentalement, comme un pays racialiste.
Vous l'appelez comme ça, mon pays?
Oui, c'est mon pays, la France, absolument, bien sûr, c'est mon pays. Je veux dire que ça fait près de 30 ans que j'y vis. Je veux dire qu'on n'est pas d'un pays parce qu'on a une couleur de peau. On est d'un pays parce qu'on a sa culture, parce qu'on a ses pensées, parce qu'on partage son destin. Il faut arrêter d'associer les êtres humains à la couleur de leur peau, à une terre. Je veux dire qu'on n'est pas africain parce qu'on est noir, on est africain parce qu'on a la culture africaine. Et effectivement, un blanc peut très bien être aussi africain qu'un noir, je suis désolé. L'autre jour, justement, je pourrais revenir, si on avait deux minutes, je vais parler de ça en deux secondes. Ségolène Royal était
à Dakar,
demander ce pardon, apporter des camions aux femmes de réfrigération, je sais pas quoi, etc. Et Ramayad l'interpelle en disant qu'elle n'est pas née au Sénégal par hasard. Ça veut dire quoi? Je veux dire que ça, ce sont des paroles tristes de la part d'une femme qui se veut une femme politique. Ce sont des paroles horribles même à entendre, car on n'est pas... Je veux dire que pour moi, Ségolène Royal s'est montrée plus africaine que Ramayad, soyons logiques. Ramayad était là quand Sarkozy a insulté l'Afrique. Elle n'a rien dit. Ségolène est venue, elle a réhabilité l'Afrique. Et ça, c'est une Africaine. Et elle a eu des gestes que moi-même j'ai. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous qui sommes ici, les femmes africaines de France, nous allons souvent en Afrique, nous donnons des cadeaux, nous donnons des chaises, des fauteuils, des machins, des trucs pour que les femmes puissent mieux vivre là-bas. Ségolène Royal a fait ça jusqu'à ce jour. Ramayad n'est pas de ces Africaines qui l'ait fait. Et donc, pour moi, je me sens beaucoup plus proche, pas politiquement, mais intellectuellement et dans le geste de Ségolène Royal que de Ramaya, Dieu veut le pour elle.
Alors quel bilan faites-vous de votre, justement, votre collectif Égalité? Est-ce que depuis que vous avez commencé ce combat en 1998, il y a eu beaucoup plus d'Africains ou d'Arabes dans les médias français?
Oui, absolument, il y en a un peu plus, mais pas tant que ça. Il ne faut pas non plus se gargariser parce qu'il y a des blocages.
L'objectif, c'était d'avoir donné beaucoup plus de place.
On ne les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont trompé d'une certaine façon en mettant un Rosel Mack. Mais j'ai dit que Sarkozy est très, 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 très fort. Ils mettaient un Rosel Mack, ils nous secouaient. Et là, maintenant, c'est l'autre là, c'est l'autre au CSA. Comment il s'appelle machin chouette là, au CSA. Bon, que j'adore, Christine Kelly. Bon, je veux dire qu'on nous secoue ça, deux personnes. Je veux dire que nous sommes des millions de personnes. On nous secoue deux personnes ou trois sous le nez. Comme des cache-sexe. Vous êtes satisfait, vous êtes satisfait. Arrêtez de se foutre de notre gueule. Le peuple noir, ce n'est pas ces trois personnes, deux ou trois personnes. C'est un ensemble de civilisations. Il y a la culture afro-française qui est complètement absente des écrans. C'est ce que nous demandons, que ce soit représenté, la culture afro-française, parce qu'il y a une culture afro-française. Nous venons avec les racines qui sont de l'Afrique. Nous avons mélangé cette culture-là à ce que nous avons rencontré ici. Nous avons créé une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, et c'est de ça que dont nous parlons, ce n'est pas des cache-sexe télévisuels qu'on nous montre.
Calixte, vous avez parlé de culture afro-française à travers une chanson et un groupe musical de la Côte d'Ivoire. Quatre jeunes de la mouvance Zouglou de la banlieue d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors c'est la dernière proposition musicale, Calixte, que vous nous avez donnée aujourd'hui pour faire plaisir à tout le monde. On va devoir se quitter. Un dernier mot?
Oui, je pense que ce groupe-là est extraordinaire parce que c'est vraiment la langue française dans son évolution absolue que je trouve magnifique, que j'ai voulu saluer ici.
Alors c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le petit nègre.
Ah oui, mais c'est magnifique. Je veux dire que c'est très poétique en même temps. Je veux dire que c'est, quand j'ai écouté ça pour la première fois, mais avant que ça devienne à la mode en fait, je les ai découverts, j'étais en Côte d'Ivoire. Ils n'étaient pas encore à la mode, personne ne les connaissait en France. Et à l'époque, j'avais demandé d'avoir un petit machin pour venir faire écouter en France. Et j'étais invité justement à France Inter et j'ai donné ça. On m'a demandé d'apporter un disque. J'avais donné ce disque et je me rappelle que ils m'ont demandé d'où ça sortait ce truc en fait à l'époque. Ils n'étaient pas connus. Mais effectivement, ce sont des gens que j'aime beaucoup pour ce qu'ils font avec la langue française, c'est-à-dire la magnifier à leur manière.
Vous maniez très bien aussi la langue française, Calixte Bella, à votre actif 18 ouvrages. Le dernier, c'est le roman de Pauline. Merci et bonne promotion. Ainsi se termine cette édition d'En Sol Majeur, une édition préparée par Laura Podolowski, réalisée par Cédric Ossir, la mise en onde et l'œuvre de Nicolas Doro. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao.